Bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey Thériault et c'est ma voix qui vous accompagne durant ce balado Audrey Yoga où on discute de yoga et de méditation sous toutes ses formes. Prenons ce moment ensemble pour nous remettre à notre état naturel, au diapason. Je vous souhaite la bienvenue à ces épisodes réalisés avec beaucoup de joie et d'amour. 8 février 2024, bienvenue à ce 4e épisode de la 2e saison des balados Audrey Yoga, balado où on discute de yoga, de méditation sous toutes ses formes, mais spécialement cette saison-ci, les fréquences sonores sont reines des balados. On le sait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, toute chose observable vibre à sa fréquence unique. De là, la pratique de se fréquencer, c'est-à-dire de s'aligner à notre fréquence propre par le biais de vibrations sonores cohérentes. Et de cette pratique quotidienne se vit un alignement intérieur qui nous permet de faire résonner notre essence véritable. Depuis toujours, je suis habitée, fascinée, voire même chavirée par l'omniprésence du son et par son influence directe ou indirecte sur tout ce qui est. Et quoique c'est encore peu connu et peu pratiqué en Occident, le monde du yoga a aussi sa forme de yoga du son qu'on appelle le Nada Yoga. Et il utilise les vibrations sonores en guise de support à la méditation dans le but d'atteindre des niveaux de concentration et de conscience qui sont plus profonds. Aujourd'hui, pour poursuivre sur notre lancée de se fréquencer, soit avec notre voix humaine, par le biais du toning vocal ou encore du chant des voyelles, on avait vu aussi qu'on peut se fréquencer à l'aide de bains de massage sonore, comme avec le son d'un bol tibétain, d'une fourchette de réglage, ou même avec le son d'un gong. Eh bien aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots sous toutes leurs formes qui est à l'honneur. Et ensemble, on va démystifier c'est quoi les fameux mantras, ces hymnes, ces petits récits qui sont employés en yoga du son, qui sont composés depuis plusieurs millénaires par les sages de l'humanité, par des poètes, par des prêtres, par des savants, même par des prophètes. Et leur beauté phonétique, leur signature musicale ont des rythmes et des intonations qui témoignent d'un raffinement et d'une minutie qui créent à l'usage une véritable mélodie de sonorité. L'énergie qui prend vie sous la forme d'une idée, d'une pensée, d'un mot lu ou parlé, envoie directement une intention dans la matière. Le pouvoir des mots est un sujet qui suscite son lot d'intérêt du fait qu'il permettrait à l'être humain rien de moins que de manifester des réalités dans l'univers qui l'entoure. À ce sujet, c'est intéressant de constater que nos prédécesseurs avaient déjà saisi l'importance de la puissance des mots et l'influence de leurs vibrations. Au fil du temps, les traditions mythiques, culturelles ou religieuses ont toujours honoré le verbe avec un V majuscule, le verbe dans le sens de vibration sonore. Et on le retrouve à l'exorde de bon nombre d'écrits sacrés qui ont transcendé les siècles. Peu importe la langue, l'époque ou la tradition à laquelle elles appartiennent, retenons que les combinaisons de sons qui s'amalgament pour former un mot, eh bien, ces combinaisons engendrent des fréquences vibratoires qui auraient des effets immédiats sur la matière qui les perçoit et permettraient à l'être humain qui les emploie de créer une réalité vibrant aux mêmes fréquences que les mots employés. Pour faire un lien avec le dernier épisode, on avait abordé le sujet de la cymatique qui est cette étude des sons et des vibrations qui se rendent visibles à travers un médium comme de l'eau, du sel ou du sable. Et on était capable de voir une figure géométrique qui se formait à travers cette réponse entre la fréquence et le médium. Ça nous permet de mieux voir avec nos oreilles ces vibrations sonores qui sont invisibles à l'œil. À ce sujet, et pour aller dans la même veine, les recherches du japonais Masuro Emoto ont démontré des effets du pouvoir des mots, et ce, par une série d'expériences menées avec des cristaux d'eau gelée et observées par un procédé photographique. Monsieur Emoto et son équipe se sont intéressés à l'observation des molécules d'eau qui étaient exposées à des mots, à des musiques ou à des sons variés, pour découvrir que les molécules réagissaient différemment à l'exposition de différents types de vibrations. Par exemple, quand une goutte d'eau était exposée à des mots comme par exemple « merci » ou « amour » ou à tout autre mot bienveillant, et peu importe la langue dans laquelle ils étaient prononcés, les chercheurs ont constaté que la structure cristalline de l'eau, après sa congélation, prenait la forme d'un flocon symétrique bien formé, complexe et scintillant. À l'opposé, une molécule d'eau soumise à des mots avec un caractère plus, avec une intention plus violente, formait des flocons incomplets et asymétriques. Plusieurs autres chercheurs du siècle dernier, comme Jacques Benveniste, Victor Schauberger, Marcel Violet ou encore Roland Plocher, pour ne nommer que ceux-ci, eh bien, ils se sont penchés soit intentionnellement ou parfois accidentellement sur les propriétés, sur la structure et sur la dynamisation de l'eau. Eh bien, force est de constater que non seulement l'eau est-elle réceptive aux messages extérieurs qui lui sont communiqués à travers le son, mais elle a aussi une mémoire, en ce sens que l'eau conserve cette vibration qui se révèle lors d'un changement d'état de sa forme liquide à sa forme solide. Rappelons-nous que le corps humain est composé à 70% d'eau, et sachant que le son voyage 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Dans l'eau, le son voyage environ à 1500 mètres par seconde et dans l'air, environ à 340 mètres par seconde. Donc, la puissance vibratoire des mots à laquelle nous sommes exposés quotidiennement ne peut qu'inévitablement avoir des effets sur notre corps et sur les organismes qui nous entourent, comme nos animaux, nos plantes, les éléments et autres. Bref, la puissance des mots et leurs intentions subséquentes, ça représente vraiment une force collective, un langage créateur et universel. Et quand le pouvoir des mots travaille de concert avec une conscience éveillée, eh bien, il se libère un potentiel de manifestation et de transformation infinie. Dans l'introduction, aujourd'hui, le pouvoir des mots et de leurs vibrations sont à l'honneur. Et un incontournable des méditations sonores, c'est bien sûr les mantras. Alors, on va démystifier ensemble ce que sont les mantras. Eh bien, ce sont de courtes formulations qui sont construites à partir d'une combinaison de sons qui sont dérivés des 50 lettres de l'alphabet sanskrit. Le sanskrit, ce que c'est une langue racine parmi les plus anciennes langues indo-européennes qu'on connaît. Donc, un mantra, même à l'étymologie du mot, mantra signifie qui protège ou qui libère la pensée. Donc, man veut dire penser, le verbe penser, et trana veut dire protéger ou libérer de ses liens. Les traditions nous rapportent que les rishis, les vieux sages de l'Antiquité indienne, eh bien, ils s'étaient soigneusement penchés sur l'étude des mouvements de l'air, de la langue et de la mâchoire, pour ensuite méditer de longues heures avec l'ensemble des sons qui pouvaient être produits par l'être humain. Au fil du temps, ils en sont venus à attribuer une vibration unique et spécifique pour chacun de ces sons et à utiliser leur puissance sous forme de multiples combinaisons sonores dans une panoplie de circonstances. Ce qui confère aux mantras leur impact, leur puissance ou encore leur dimension sacrée, c'est qu'ils sont porteurs d'un potentiel transformateur au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. L'écoute de mantras spécifiques ayant chacun leur portée et leurs bienfaits, ou encore la récitation de ceux-ci de manière répétitive, ça permet de canaliser l'activité du mental et ça permet de créer de l'espace entre les pensées parasites. Une pratique régulière et soutenue va aussi permettre d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs et de profonds états de méditation. Il existe des centaines et des centaines de mantras. Si vous faites une courte recherche sur Internet, vous allez en trouver un bon nombre qui sont interprétés par différents artistes dans différents styles musicaux. Donc, je vous invite à trouver celui ou ceux qui résonnent le plus avec votre être, celui qui vous aligne, celui qui vous fréquence à votre plus saine expression. Et je ne fais pas de cachette avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un mantra, le mantra des mantras par excellence? Eh bien oui, c'est celui-ci. Et oui, le fameux son Om ou Aum. Cette vibration universelle qui a littéralement transcendé les époques et qui a voyagé sur tous les continents et qui est considérée dans les pratiques yogiques comme le son primordial, eh bien, profitons-en pour faire le point sur ce son mythique qui est bien connu de tous et qui suscite pour certains une grande dévotion ou un brin de curiosité, puis pour d'autres, ben, ça suscite son lot de malaise, d'incompréhension ou même de mésinterprétation. À la genèse de toutes les explications, si on y va de façon la plus dépouillée possible et si on enlève tous les attachements aux traditions culturelles ou religieuses, il faut simplement remarquer que le son Aum regroupe les trois sons de base qui sont les fondements de tous les autres sons, du fait que la langue n'est pas du tout sollicitée. Donc, d'un point de vue purement physiologique, le son OM, on l'écrit OM, mais à l'audio, quand on le prononce, on devrait plutôt le prononcer non pas comme OM, mais AUM. Eh bien, ce son-là est celui qui offre le plus de résonance possible à notre corps humain, toute morphologie confondue. Par exemple, le A, qui est une voyelle qui est émise sans interférence, eh bien, sa résonance, elle est fortement ressentie au niveau de la poitrine et de la cage thoracique. Tandis que le OU, qui est un son pour lequel on doit légèrement resserrer les lèvres, eh bien, la fréquence peut descendre jusqu'au nombril, voire même jusque dans la région du bassin. Ensuite, on arrive au M, Aum, eh bien, le son est produit en resserrant et en refermant dans le fond les lèvres en totalité pour aller résonner dans toute la cloison nasale et dans le crâne tout entier. C'est un exercice qui est extrêmement simple et à la portée de tous que de répéter ces trois sons combinés avec fluidité, un à la suite de l'autre, pour faire résonner toutes les vibrations sonores le long de notre colonne d'air, dans le fond. Il se crée un mouvement circulatoire qui commence à la cage thoracique, qui descend jusque dans la région du bassin et qui remonte vers le crâne. Et ce mouvement circulatoire va engendrer des stimulations nerveuses. Ça va faire un massage sonore qui n'a pas encore trouvé son égal dans toutes les catégories d'exercices de résonance vocale connues jusqu'à maintenant. Ce sera à vous d'en juger par une pratique personnelle qui reste le meilleur moyen d'expérimenter pour à tout le mieux en tirer tous les bienfaits. Donc, à vos aoum!
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Sharanam Sharanam
Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai enregistré le balado à la clarté du jour, collé contre la fenêtre. Donc, c'est avec les bruits environnants, le frigo, les petites pattes de Wendy qui est venue me rejoindre tout près. Donc, c'est avec les massages sonores du quotidien et avec les plus beaux mots de mon cœur que je nous invite à nous fréquenter avec les vibrations sonores qui nous entourent pour nous propulser paisiblement en notre intérieur et pour nous incliner à notre diapason naturel. Si les extraits musicaux que vous avez entendus aujourd'hui vous ont plu, sachez que vous pouvez entendre la totalité des trames sur adiamusic.bandcamp.com. Je vais laisser l'adresse avec des informations écrites sous la rubrique du balado. Prenez soin de vous. À tout bientôt.